Et pour cette première partie de l'EM, nous découvrons l'Institut Paul-Émile Victor, ou l'IPEV si vous préférez. Installé à Plouzané, la structure coordonne la recherche scientifique dans les régions polaires et subpolaires. Nous sommes avec Lucie Maignan, chargée de communication pour l'IPEV. Bonjour.
Bonjour.
Alors, l'Institut Paul-Émile Victor, est-ce l'endroit où toute la recherche scientifique française en matière de régions polaires se dessine ?
Alors, l'Institut Polaire Français, il remplit une mission de service public qui est la mise en œuvre sur le terrain de la recherche française dans les régions de haute latitude, au nord comme au sud.
D'accord. Alors, les missions, globalement, qu'est-ce que c'est ?
Alors, ça passe de la sélection des projets scientifiques jusqu'à l'entretien des stations de recherche, en passant par du recrutement de personnel, l'acheminement du personnel et des vivres et du matériel sur le terrain, la formation de notre personnel, la planification des chantiers, etc. etc.
Ah, ça fait un paquet de trucs, parce que pour bien comprendre, donc, l'IPEV, ce n'est pas un laboratoire de recherche.
C'est ça.
Il faut le voir en fait comme une base logistique et de support pour les laboratoires de recherche.
Exactement. Ce qui se passe, c'est que les chercheurs qui sont intéressés pour aller travailler dans les régions polaires soumettent des dossiers qui présentent leurs projets scientifiques. Ces projets sont évalués par un comité scientifique, donc composé d'experts dans différentes disciplines scientifiques, qui propose une notation, et l'Institut se base sur ces notations-là pour sélectionner les projets qui sont effectivement mis en œuvre en fonction de leur qualité scientifique et de la possibilité aussi que l'Institut a de fournir tout ce qui est nécessaire pour mener à bien ces projets.
Donc si on résume, c'est un groupement d'intérêt public.
Tout à fait.
Dans lequel on va retrouver les principaux acteurs de la recherche scientifique française. Et du coup, l'IPEV met son savoir à disposition.
Exactement.
Ses partenaires, enfin, en gros, c'est qui les chefs de l'IPEV ?
Alors, on a un certain nombre de tutelles qui sont composées de différents ministères. Donc, le ministère chargé de la recherche, celui chargé des affaires étrangères et une autre tutelle administrative qui sont les terres australes et antarctiques françaises. Et ensuite, différents organismes de recherche sont impliqués également. Donc, le CEA, le CNES, donc pour les études spatiales, le CNRS, bien sûr, qui est un des acteurs majeurs de la recherche française, l'IFREMER et Météo France.
Alors, le CNES, vous pouvez redire ce que c'est déjà, c'est...
Le Centre National d'Études Spatiales.
Ah oui, du coup, ça va peut-être être intéressant de reparler un peu plus tard, parce que pôle et espace, peut-être qu'il y a un lien.
Effectivement.
On y reviendra. Alors, sur quel territoire intervient l'IPEV ?
Alors, on travaille dans trois zones géographiques différentes. La première, c'est donc tout au nord, en Arctique. On a une station qui est installée dans l'archipel du Svalbard, qui est un archipel norvégien, mais qui, depuis les années 1920, a été ouvert aux autres nationalités à des fins de recherche. Et donc, on a une station là-bas qui s'appelle l'AVIPEV, qu'on gère en partenariat avec l'Alfred Wagner Institute, donc l'institut, notre homologue allemand. C'est une station franco-allemande. Si on descend donc dans l'hémisphère sud, on travaille dans ce qu'on appelle les îles subantarctiques françaises, qui font partie des TAF, des Terres australes et antarctiques françaises, qui est une collectivité d'outre-mer, qui compte aussi la Terre Adélie et les îles Éparses. Et donc dans ces îles australes, on retrouve l'archipel de Kerguelen, l'archipel de Crozet et les îles Amsterdam et Saint-Paul.
Alors ça représente combien de personnes en termes de ressources humaines, tout ça ? On a fait le tour ?
Alors, on n'a pas encore fait le tour, on n'est pas descendu tout au sud, puisque on travaille au sud dans les îles subantarctiques et aussi en Antarctique. On a deux stations, une station qui s'appelle Dumont-d'Urville, qui se situe sur la côte de la Terre Adélie, donc à peu près en face de l'Australie. Et on a une autre station qui est, elle, franco-italienne, et qui se situe à 1100 km à l'intérieur du continent,
très bien.
Qui s'appelle Concordia.
Voilà. Alors, en termes de personnes, ça représente combien de personnes pour investir tous ces lieux ?
Alors, donc au siège de l'Institut à Plouzané, on est une quarantaine à peu près. Et ensuite, sur le terrain, c'est plus d'une centaine de personnes qui sont emmenées chaque année en renfort des équipes scientifiques, en renfort des équipes techniques.
Alors, qui est amené à travailler ? Il y a plein de profils, j'imagine, parce que quand on regarde les offres, vous cherchez de temps en temps des boulangers aussi ?
Oui, tout à fait, parce qu'on... Alors, faut imaginer que ces stations, c'est un peu des mini-villages, donc il faut qu'on y trouve toutes les professions nécessaires à faire vivre et travailler tout le monde. Donc, bien entendu, le premier profil auquel on pense, c'est les scientifiques, les chercheurs qui viennent réaliser leurs recherches sur le terrain. Et puis, ensuite, on a toute une gamme, entre guillemets, de personnel logisticien et technicien, qui vont assurer la planification des chantiers et des projets scientifiques, qui vont assurer l'entretien des stations, qui vont assurer certaines réparations, certaines fabrications nécessaires pour mettre à bien des projets scientifiques. Et puis, on a aussi tout le personnel qui est plus rattaché à la vie quotidienne et à la sécurité des personnes. Je pense effectivement aux cuisiniers, aux boulangers d'une station, ou aux médecins, ou aux responsables des communications, etc.
Parce que, en termes de distance, pour bien situer, par exemple, Creuset, Kerguelen, Amsterdam, en gros, on a combien de kilomètres de La Réunion ? On est...
Alors, en kilomètres, je ne vais pas pouvoir vous dire très précisément, mais par contre, je peux vous parler en jours de navigation.
Ah bah oui, déjà, ça procède. Parce que la question, vous parliez des médecins, mais concrètement, la Réunion, c'est combien de temps, si on a besoin d'aller à La Réunion pour aller voir, être hospitalisé, c'est combien de temps de...
C'est au moins 4 jours de navigation.
C'est ça, il faut avoir un truc grave, quoi.
Voilà. Et alors, c'est aussi le souci de ces régions-là, c'est que... pour les îles subantarctiques, on a effectivement le Marion Dufresne qui passe assez régulièrement, même si c'est que une fois par mois en moyenne. Pour le reste de nos régions, par exemple pour l'Antarctique, il y a toute une période de l'année où il est complètement impossible d'accéder au territoire. Donc il faut que la station soit aussi complètement autonome d'un point de vue médical.
Donc l'IPEV intervient sur une partie des TAF, alors il n'y a que les îles éparses en fait qui ne sont pas concernées, parce que là du coup on est plus dans un régime tempéré, on n'est pas dans l'ordre du polaire ou du subpolaire. Les TAF c'est les terres, c'est pour terre australe et antarctique française, c'est des petits bouts de territoire français là dans l'hémisphère sud. Alors en fait je dis petits bouts mais pas forcément, parce que la Terre Adélie mine de rien, ça représente quand même un sacré morceau de territoire qui appartient à la France.
Oui, c'est assez étendu. Alors, c'est un territoire qui a été revendiqué par la France. Depuis 1959, l'Antarctique est régi par le traité sur l'Antarctique, qui a gelé ces revendications territoriales-là.
Sans mauvais jeu de mots.
Voilà, sans mauvais jeu de mots. Mais effectivement, la Terre Adélie, c'est un territoire assez étendu. Et finalement, l'Antarctique étant elle-même très étendue, c'est un territoire qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas le moindre recoin. On reste localisé sur la côte parce que c'est la partie qu'on a découvert et qui est le plus facile d'accès grâce au navire. Nous, grâce à Concordia, on peut aussi commencer à envisager de mettre en place des convois scientifiques pour aller découvrir d'autres parties du continent. Mais ça reste, pour une grosse partie du territoire, un continent assez peu connu.
Parce que pour situer la station du Mont-d'Urville, vous l'avez dit, elle est grosso modo, on se met sur la même longitude que l'Australie.
À peu près.
On descend, enfin la Tasmanie peut-être plus.
Tasmanie, oui. Ouais.
Puis Concordia, on va un petit peu dans les terres.
Oui.
Enfin, dans les terres de l'Antarctique, sur l'Inlandsea, sur le glacier de l'Antarctique, quoi. 1500 km, c'est ça ?
1100 km, et c'est à peu près à 1600 km du pôle sud. Donc, c'est pas complètement au centre, mais on commence à quand même être loin de tout.
Bah oui, alors vous avez eu l'occasion, vous, en tant que chargé de communication, d'être confronté un petit peu aux situations climatiques de ces territoires ?
Alors oui, j'ai eu la chance de partir en Antarctique l'année dernière. Donc j'ai pu passer un mois à la station Concordia et une petite semaine à la station du Mont-d'Urville.
Donc vous avez été confronté un petit peu aux problématiques des scientifiques sur le terrain.
Effectivement, en termes de conditions de vie, de conditions climatiques, on le disait, et puis de conditions techniques aussi. Parce que
ça ressemble à quoi un été à Concordia ?
Eh bien, ça ressemble à un hiver très rude en France. Effectivement, à Concordia, la température moyenne en été, ça tourne autour de moins 30 degrés. Donc, bien équipé, c'est supportable.
Et on imagine que les vents catabatiques, hiver comme été, il y en a. Des vents assez forts, on imagine.
Alors, c'est le cas à Dumont-d'Urville. À Dumont-d'Urville, il y a des forts vents catabatiques. À Concordia, pardon, il n'y en a quasiment pas. Il n'y a quasiment pas de vent. Et en plus, il y a beaucoup d'ensoleillement. Donc, ça aide. Parce que c'est vrai que les rayons lumineux permettent d'aider à garder une température raisonnable.
Alors pour en revenir aux intérêts scientifiques de ces territoires, grosso modo, est-ce qu'il y a des enjeux communs à ces 6 stations ?
Alors, il y a des caractéristiques communes parce que ces territoires-là ont des intérêts qui sont, alors, pour certains, intrinsèques. Je pense à leur isolement, je pense à la présence de calottes glaciaires, la présence d'épaules géomagnétiques pour l'Arctique et l'Antarctique. ce qui en fait des territoires qu'on ne peut pas étudier sans y aller pour l'instant. Et puis, ils ont aussi d'autres caractéristiques qui sont relatifs à leur influence sur le reste du monde. Voilà, on sait que les calottes glaciaires des pôles ont une influence sur le niveau de la mer, que le climat qui est dans ces régions-là va avoir une influence sur le climat général de la planète, que c'est aussi des zones qui ont une influence sur la circulation océanique. Donc c'est intéressant d'aller étudier ces terrains-là aussi pour comprendre le fonctionnement de notre planète en règle générale. Et ensuite, on a, comme pour tous les endroits isolés géographiquement, une biodiversité particulière avec beaucoup d'espèces endémiques qu'on va trouver notamment dans les îles australes.
Sur Concordia et Dumont-d'Urville, j'imagine qu'on travaille plus spécifiquement sur le réchauffement. On se sert de Concordia pour faire des carottages. Je crois qu'il y a eu récemment une campagne de carottage, non ?
Oui, alors historiquement, la station Concordia a été installée sur un site qui est propice au carottage du fait de, notamment de l'épaisseur de glace qu'on y trouve. Et c'est le forage Epica qui a permis, il y a quelques années, de retracer 800 000 ans en arrière de l'histoire du climat.
On peut aller, en termes de carottage, on peut aller jusqu'à combien de kilomètres? Parce qu'à Concordia, l'épaisseur de glace, elle doit être aux alentours de 2 à 3 kilomètres, j'imagine.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
2 à 3 kilomètres au-dessus du socle rocheux, pour imaginer. Rocheux, oui. Quoi. Ça fait une bonne épaisseur. Et là, on remonte jusqu'à 800 000 ans.
C'est ça. Pour l'instant, on a réussi à remonter à 800 000 ans. Et on a actuellement un projet en cours qui s'appelle Beyond Epica, dont l'objectif est de pouvoir remonter encore plus loin et qui va se situer à quelques kilomètres de la station Concordia.
Et sur Dumont-d'Urville, c'est plutôt l'aspect biologique qui prime ici?
Alors, en partie, dans toutes les stations, on va avoir aussi des études communes, d'études de l'atmosphère, de la géodynamique du globe, des choses comme ça. À Dumont-d'Urville, on a effectivement des études du vivant, notamment des manchots. Hein. La station est installée en plein cœur d'une manchotière de manchots à Delhi, et c'est très proche d'un site de reproduction de manchots empereurs. Donc c'est vrai que c'est des populations qui sont suivies depuis des années. Et on étudie aussi beaucoup la biodiversité sous-marine de l'océan austral, parce que loin de l'image qu'on peut avoir d'un océan glacé et vide de toute vie, au contraire, il y a une grande biodiversité sous-marine.
Et si on remonte un petit peu vers le nord, vers les Kerguelen, l'île de la Possession, sur les Crozets, Amsterdam, là aussi c'est l'enjeu biologique qui prime?
Oui, on a également des études de l'atmosphère ou de physico-chimie du globe, mais les études de biodiversité sont très présentes, également sur des populations de manchots, mais sur toutes les autres espèces d'oiseaux qu'on peut y trouver, d'insectes également, et puis de flore.
Et où en est-on du côté des espèces invasives importées par l'homme sur ces îles-là? Parce que c'est quand même un laboratoire scientifique quelque part intéressant, dans le sens où il y a eu de nombreuses espèces qui ont été importées par l'homme. Comment est la situation là-bas en termes de biologie?
Alors, tout dépend des îles. Hein. On sait qu'effectivement, l'histoire de ces îles ont fait qu'il y a eu des introductions d'espèces invasives à l'époque où l'homme essayait d'implanter des activités économiques sur ces endroits-là.
On a essayé, vraiment ?
Oui, on a essayé les élevages, on a essayé la conserverie, on a essayé plein de choses. On sait de toute façon que ces milieux regagneront c'est très peu probable qu'ils regagnent leur aspect d'origine, en fait. L'idée est de limiter la propagation de ces espèces invasives et de garder ces territoires le plus sauvage possible.
Parce qu'il y a encore des intérêts à étudier biologiquement ces îles, et ce qu'il y a toujours, ce qui font leur particularité, tout ce qui est endémisme, en fait, quoi. C'est parce que ce sont des îles assez récentes, qui ont entre 50 et 30 millions d'années, si je ne me trompe pas, c'est des îles volcaniques à la base.
Oui.
Est-ce que on y retrouve toujours des caractéristiques propres à ces îles?
Oui, bien sûr, parce que ces espèces endémiques, elles ont effectivement été complétées par des espèces invasives, mais elles sont toujours là. Et puis, on découvre toujours de nouvelles choses sur ces espèces-là, sur la manière dont elles s'adaptent aux conditions des lieux et au changement climatique.
Sur la question du réchauffement climatique, est-ce que ça ne prend pas non plus le reste sur tout le reste? Est-ce que ce n'est pas devenu quelque chose de... devenu tellement massif quoi, dans l'émission de l'IPEV ?
Alors, dans l'émission de l'Institut, non, puisque qu'il y ait une part d'études du réchauffement climatique ou pas dans les projets scientifiques n'est pas un critère indispensable pour montrer leur qualité. Donc, effectivement, beaucoup de projets ont une part qui font que leur objet d'étude va être lié d'une manière ou d'une autre au changement climatique, mais c'est pas le cas de la totalité des projets.
D'accord. Alors pour revenir un petit peu sur la vie sur ces territoires lointains, ce sont des territoires qui ne sont pas simplement accessibles. C'est quoi par exemple le parcours que vous avez pu, le parcours du combattant pour se rendre à Concordia? À quoi ça ressemble en partant de Plouzané?
Alors en partant de Plouzané, ça ressemble tout d'abord à beaucoup d'avions. Puisque on rejoint, alors on peut accéder à l'Antarctique par deux moyens, soit tout en avion. Donc en général, on va jusqu'en Nouvelle-Zélande, donc c'est déjà 2 fois 12 heures de vol. Et ensuite, on prend un autre avion à destination de l'Antarctique, qui en général atterrit dans une station étrangère, australienne ou américaine en règle générale, qui sont des stations un peu plus importantes, qui ont de quoi avoir des pistes pour faire atterrir de plus gros avions. Et donc, à titre personnel, j'ai atterri à la station américaine McMurdo. Et donc, de McMurdo, j'ai pris à nouveau un petit avion, cette fois-ci à destination de Concordia. Le deuxième chemin possible, c'est de passer par le bateau. Donc, ce coup-ci, on se rend en avion, non pas jusqu'en Nouvelle-Zélande, mais jusqu'en Australie, enfin, jusqu'en Tasmanie, pour être précise. Et donc, on a quelques jours de navigation à bord de l'Astrolabe pour rejoindre la station du Mont-Durville, à partir de laquelle on peut également rejoindre Concordia en avion.
On en parlait en début d'émission, mais est-ce que c'est exagéré de tisser des liens entre l'exploration spatiale et l'exploration des régions polaires?
Alors, entre exploration, c'est pas complètement aberrant, c'est encore moins aberrant de tisser des liens entre vie dans une station en Antarctique et vie dans l'espace, notamment à Concordia. C'est d'ailleurs, la station sert d'ailleurs d'homologue terrestre aux missions spatiales et on s'y déroule des projets scientifiques de biomédecine qui cherchent à savoir comment est-ce que l'homme s'adapte à des conditions telles qu'on peut retrouver dans l'espace, hein, de la nuit polaire qui joue sur notre organisme.
À Concordia, l'hiver, pour le coup, c'est 6 mois sans voir le soleil, grosso modo.
Oui, c'est ça, oui. C'est 6 mois de soleil et puis on s'ennuie et puis suivi de 6 mois de nuit sans soleil avec bien entendu les deux périodes de transition de l'un vers l'autre.
Et c'est toujours étudié, donc c'est étudié ces impacts, ça resserre du coup pour le CNES par exemple.
Oui, l'idée c'est que on travaille aussi en grand partenariat avec l'Agence spatiale européenne dans l'idée que on peut étudier la qualité du sommeil des hivernants, l'évolution de leur système immunitaire aussi. On a pu déjà constater qu'il y a par exemple une mise en veille du système immunitaire pendant la période d'hivernage et puis que ça se réactive de manière très forte aux premières agressions, entre guillemets, avec l'arrivée des estivants de l'année suivante.
Le côté, pour le coup, peut-être plutôt risque de vie en groupe, en milieu confiné, ça aussi, ça peut servir, j'imagine, l'industrie spatiale.
Alors effectivement, on a tendance à dire qu'un hivernage, c'est aussi une expérience sociale. Et pour que ça se passe du mieux possible, les hivernants sont soumis à des tests psychologiques pour évaluer du mieux leur capacité à vivre cette expérience-là. Et il y a effectivement des projets scientifiques qui étudient d'un point de vue psychologique l'évolution et le comportement, entre guillemets, des hivernants.
Et est-ce qu'on considère toujours ces missions dans le Grand Sud? Est-ce qu'on peut toujours les considérer comme à risque? On imagine que ça ne se passe pas de la même manière que dans les années 60, 70, dans les prémices, quoi, mais est-ce que c'est toujours à risque? Récemment, il y a eu un accident, je crois que c'est un avion qui partait du Chili qui se rendait en Antarctique. Ça fait partie des risques aussi, quoi.
Alors oui, nous, c'est notre travail de les diminuer au maximum, ces risques-là. On fait beaucoup de formations, on met en place d'énormes procédures de sécurité pour que tout se passe au mieux. Mais effectivement, c'est pas aussi anodin qu'aller travailler dans une région bien plus hospitalière.
On parle beaucoup de l'hémisphère sud, mais l'hémisphère nord aussi fait partie des endroits, des zones habitées par l'IPEV. Alors ça se passe du côté de Svalbard, c'est ça ?
Alors oui, ça se passe alors en partie au Svalbard, c'est là où on a une station. Et puis on finance et on accompagne également des projets scientifiques sur tout le pourtour du cercle polaire arctique. Pour des équipes qui, elles, vont être accompagnées par des universités ou des centres de recherche étrangers, par exemple, pour rejoindre les lieux qui les intéressent.
Et les enjeux, là, on imagine qu'ils ne sont pas du tout les mêmes que dans l'hémisphère sud.
Alors, on a les mêmes problématiques de biodiversité, de calottes glaciaires, de glaciers, de composition de l'atmosphère, des choses qu'on va retrouver un peu partout. En Arctique, on a aussi la spécificité que c'est un endroit habité depuis longtemps et on a des projets qui vont s'intéresser au peuple de l'Arctique d'un point de vue archéologique, d'un point de vue sociologique.
Alors, une précision que je voulais avoir, moi, c'était sur... Est-ce que l'IPEV est propriétaire des équipements ? C'est-à-dire tout ce qu'il y a sur les îles, tous les centres de recherche, je pense à la station sur Crozet, l'IPEV est propriétaire des bâtiments ?
Alors, il y a une subtilité qui est que l'Institut n'a pas tout à fait les mêmes responsabilités en fonction des trois zones dans lesquelles il travaille. En Arctique, on a la chance d'avoir une entreprise norvégienne au village de Nialesund où est installée la station Avipev qui s'occupe de toutes les infrastructures. Donc, arrivé là, notre mission est vraiment de mettre en place de la recherche et d'accompagner les projets scientifiques. On a également la responsabilité d'une petite station qui se situe à 5 km de Nialesund qui s'appelle la station Corbel, dont effectivement l'Institut est propriétaire. Et dans les îles australes, la gestion des stations elles-mêmes, de leur ravitaillement, de leur la gestion quotidienne, est assurée par l'administration des terres australes et antarctiques françaises.
D'accord. Donc ça, c'est pour le Marion Dufresne, c'est pour l'Astrolabe aussi ?
Alors non, l'Astrolabe, c'est pour l'Antarctique. Et donc, dans les îles, le travail de l'Institut se concentre sur les projets scientifiques et sur le ravitaillement et l'entretien de ce qu'on appelle des refuges qui sont installés dans différents endroits des archipels et des îles et qui permettent aux scientifiques d'aller réaliser des expériences sur des endroits un peu isolés. Et donc, en Terra Deli, par contre, les terres australes et antarctiques françaises ont gardé la responsabilité de l'administration politique et puis de la médecine et des télécommunications. Et le reste, donc gestion fonctionnelle, entretien, construction de la station et projets scientifiques sont de la responsabilité de l'Institut.
Très bien. Bien, merci beaucoup Lucie Magnan d'être venue jusqu'à nous, de nous présenter un petit peu l'émission de l'IPEV et puis c'est peut-être le début d'une succession d'interviews aussi, puisque ce serait dans les tuyaux de faire des interviews avec des hivernants sur les différents territoires.
Tout à fait.
Et peut-être qu'on devrait commencer par Concordia.
On pourrait, on va essayer.
donc Concordia, pour rappel, c'est situé tout milieu, un peu excentré quand même par rapport au pôle sud.
Oui, pas tout à fait au centre exact de l'Antarctique, mais c'est déjà à une bonne distance de la côte.
Et je pense que pour nous, ce sera l'interview par téléphone, sans doute, on battra un record. On a déjà eu avec les îles Kerguelen il y a quelques années, mais là, Concordia, on casse tous les records. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
L'EM, l'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.